qu'est-ce qui était le plus difficile à comprendre ? Ce qui était le plus difficile à comprendre ce matin, c'était qu'au fond,
il y avait deux manières.
Il y avait deux manières de comprendre un mystère qui est réel, qui existe. Qu'on ne vienne pas me dire que la Vierge, c'est symbolique. La Vierge Marie, c'est pas symbolique. La Vierge Marie, c'est historique. Le mystère de l'incarnation, c'est historique. Le fait que Jésus est ressuscité d'entre les morts, c'est historique. Il n'y a pas de preuves historiques plus nombreuses pour un fait historique que pour la résurrection. La résurrection, c'est historique. Ça fait partie de notre histoire. Il y a plein de choses qui font partie de l'histoire. C'est complètement inscrit dans la réalité historique. Donc nous allons regarder. Il y a deux manières de garder une réalité. C'est ce que nous avons vu ce matin. Et on va essayer de ne pas prendre la première. Donc, la première manière de garder une réalité, en fonction d'une démarche philosophique, dans la démarche philosophique de philosophie métaphysique. Quand vous faites une philosophie métaphysique, vous essayez de regarder dans une réalité métaphysique, donc une réalité qui subsistera toujours. Par exemple, l'homme, l'humanité, toi, tu as une dignité métaphysique que n'a pas le ver de terre. Le ver de terre n'a pas de dignité métaphysique. Il a une très belle, c'est magnifique un ver de terre, c'est extraordinaire, mais il n'a pas de dignité métaphysique. Ça marche. J'espère que vous voyez la différence entre un être vivant et un être qui est finalisé par un dépassement de lui-même. Le ver, il se finalise en bouffant de la terre. Très bien. Tandis qu'un être métaphysique, qui a une dignité métaphysique, il n'est pas finalisé par ce qu'il assimile. Vous n'avez pas finalisé du tout par le gâteau et le repas. Ce n'est pas ça qui vous fait finaliser. Pas du tout. Ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas ça qui fait votre dignité. Parce que de ce côté-là, le cochon bouffe aussi. Il aurait très bien pu manger exactement tous les plats qu'on a mangés. Et je sais bien, moi qui ai plein de souris dans mon ermitage, je peux vous dire qu'elles mangent tout ce que je mange. Ce qui montre bien que ce n'est pas ça qui finalise. Donc, du point de vue de la philosophie première, je découvre quoi ? Du point de vue, donc, de l'homme. Encore mieux, de la femme. Puisque la femme, c'est le visage le plus éclatant de l'homme. La femme, c'est le sacrement de l'homme. C'est le visage le plus lumineux de l'homme. Le plus transparent. C'est le plus beau. Bon, ça dépend des fois, remarque bien. Bon, enfin, donc là, l'homme. Bon, l'homme. Dans une perspective de philosophie première, je vais découvrir que l'homme existe. Qu'il existe d'une manière, d'une dignité qui est si extraordinaire qu'il trouve en lui une détermination substantielle. Il existe. Substantielle. Il y a une dignité à l'intérieur de nous qui est extraordinaire. C'est du côté de la structure. La structure de l'homme montre qu'il se tient par lui-même. L'homme a une richesse extraordinaire en lui-même. Comprenez ça ? Une richesse qui dépasse tous les accidents. C'est une richesse substantielle. C'est une richesse qui n'est pas accidentelle. Par exemple, si vous avez une richesse, par exemple le boa, un boa, il a une richesse parce qu'il a bouffé un lion, une panthère et ensuite un hippopotame. Alors du coup, il est riche. C'est une richesse quantitative. C'est une richesse du côté des accidents. Parce que la quantité, c'est accidentelle. Bon, mon frère jumeau, il pèse 65 kilos. Moi, j'en pèse 105. 40 kilos de différence. On est d'accord? Bon, eh bien, j'ai une richesse accidentelle. Pardon, mon frère jumeau. Tandis que, vous le comprenez bien, la richesse substantielle, c'est tout à fait autre chose. La richesse substantielle, j'ai une dignité, c'est extraordinaire. J'ai une structure, je me tiens par moi-même. Tandis que le mouton, non. C'est ça qui est fou. C'est ça, comprenez, la lune, le soleil, ils sont mus dans un devenir, et en eux-mêmes, ils sont livrés à la corruption. Ben, il faut plus ou moins de temps, mais n'empêche qu'ils sont livrés à la corruption. Tandis que l'être et l'existence de l'homme, elle est perpétuelle, elle subsiste tout le temps. Il y a une richesse extraordinaire, il y a quelque chose d'infini. Il y a quelque chose d'infini dans l'homme. Ça, c'est l'aspect donc de la cause formelle. Voilà ce que nous avions dit. Formellement, si vous voulez, en toute vérité, si vous préférez, en toute vérité, l'homme est une richesse extraordinaire. Et donc, il peut orienter sa vie à partir de cette richesse extraordinaire qu'il vit. Et c'est vrai. C'est parfaitement exact. Bon. Il y a une deuxième manière. Je ne dis pas que c'est faux. Au contraire, je dis ça, c'est la vérité. Puisque vous savez bien que nous faisons beaucoup de métaphysique pour le comprendre. Et c'est très important, la métaphysique. Puisque l'Église considère qu'on ne peut pas ordonner un jeune homme prêtre dans l'Église apostolique s'il n'a pas fait au moins 5 ans de métaphysique. Alors j'aime autant vous dire, c'est pas respecté, hein, à 99,5% des cas. Hein. Mais n'empêche, c'est dans les textes. Hein. Et ça a été raffirmé par le pape Jean-Paul II. Impossible, sinon, de voir qu'est-ce qu'il y a de substantiel dans un être humain et ce qu'il y a d'accidentel. Impossible, si on n'a pas fait de métaphysique. Totalement impossible. J'espère que ça donnera très bon prêtre avec la grâce de Dieu en raison d'un miracle. Mais il ne faut pas susciter le miracle, parce qu'il ne faut pas tenter Dieu. Donc, il faut faire cette métaphysique. Deuxième manière, vous avez l'aspect de la sagesse. La sagesse philosophique, eh bien, philosophia, ça veut dire l'amour de la sagesse, philosophia. La sagesse philosophique me fait comprendre que l'homme n'est pas seulement quelqu'un qui a une vie d'une dignité infinie, mais il a également une dimension d'esprit. Dans son sommet, l'être humain est spirituel. Il est capable d'avoir une vie contemplative. Et quelque part, il existe au sens très très fort du terme, et du côté donc de l'être, il est spirituel. Ça veut dire que c'est la seule réalité, c'est une réalité d'une dignité extraordinaire, mais c'est la seule réalité qu'on constate dans notre monde qui trouve sa perfection en dehors de lui-même. Le boa ne trouve pas sa perfection en dehors de lui-même. Une fois qu'il a bouffé l'hippopotame, ça y est, sa perfection est en lui-même. C'est ça. C'est absolument égal. Tandis que la réalité que nous constatons dans notre univers, la seule réalité qui trouve son achèvement au-delà de lui-même, dans un dépassement par rapport à lui-même, c'est l'homme. Et c'est après avoir découvert l'existence de son principe, l'être premier, l'existence de sa fin, l'existence de ce qu'il est du point de vue de l'orientation de la substance de son âme, donc du côté de la finalité, cause final, du côté de sa finalité, parce qu'il est esprit, eh bien, il est entièrement finalisé par un dépassement de lui-même. Un dépassement de lui-même. Ça va? Et ça, c'est très très fort. Donc chacun d'entre nous, si vous voulez. Chacun d'entre nous, par exemple, on a reçu le baptême. Transposons maintenant au plan chrétien. Bon, j'ai reçu quelque chose d'extraordinaire. J'ai reçu la vie divine. J'ai reçu le sacrement du baptême. J'ai reçu je suis fils de Dieu. J'ai reçu des dons du Saint-Esprit. Je suis un saint. C'est indéniable. Donc, respectez-moi. Hein? Donc, respectez-moi. Respectez-moi. Je suis un saint. Respectez-moi. C'est pas comme ça qu'a fait Jésus. Jésus, c'est le saint des saints. Et il trouve sa perfection dans un dépassement de sa sainteté. et il accepte de mettre sa sainteté à bas pour pouvoir vivre du Père, pour vivre d'un autre que du Père, vivre de quelqu'un d'autre, dans un dépassement total de lui. Il nous apprend que, quelque part, il nous réapprend plus exactement, parce que je n'ai pas besoin du Christ pour apprendre ça. Il me réapprend qu'il faut que je vive d'une vie contemplative. Bon, mais comme je suis fêlé, ben, il me faut évidemment une rédemption pour ça, d'une part. Et il faut que j'aille encore plus loin que le point de vue de la sagesse philosophique, qui sera dans un point de vue de sagesse chrétienne. 1, 2, 3. La sagesse chrétienne associe la grâce et la vie mystique. La foi, l'espérance, la charité à partir de la grâce du baptême et la vie mystique, les 7 dons du Saint-Esprit. Quelque part, les 7 dons du Saint-Esprit, ce n'est pas nous qui agissons. C'est un autre que nous qui agit. Dans la foi, l'espérance et la charité, c'est moi qui agis. C'est pour ça que c'est assez important de regarder comment nous pouvons pas faire vivre de la foi. Et ce matin, nous avons bien regardé, enfin, bien, je ne sais pas, nous avons essayé de regarder que le point de vue de la foi, s'il veut être lui-même, si ce n'est pas une foi morte, il faut que cette foi aille jusque à la prise de ce qui la dépasse complètement. Parce que dans la foi, je touche quelque chose qui est réel, que je comprends. Il ne faut pas dire que ce que je touche dans la foi, je ne le comprends pas. Je comprends ce que je touche par la foi. Quelquefois, j'en fais même l'expérience surnaturellement. Ça marche. Il y a des choses que je comprends que je ne comprenais pas avant, à force d'avoir la foi. Et que je fais l'expérience, je vois que c'est vrai. J'en ai l'expérience que c'est vrai, surnaturellement. Mais je ne m'arrête pas à ça. Ça, c'est une richesse que j'ai. Formellement, j'en ai l'expérience. Mais si je veux que ma foi soit vivante, il faut qu'elle se dépasse totalement elle-même, qu'elle laisse tomber tout ce qu'elle a reçu, et qu'elle s'occupe de tout ce qu'elle n'a pas reçu. À ce moment-là, elle atteint Dieu en pleine connaissance. Et la foi a besoin de l'obscurité totale. Tout ce que j'ai comme lumière devient obscur dès que je fais un acte de foi. Parce que je comprends que Dieu est totalement au-delà. Et pourtant, ce que j'ai déjà saisi de lui, c'est vrai. C'est vraiment lui. Mais dans l'instant présent, il faut toujours que j'aille plus loin parce que le mystère de Dieu que j'atteins par une foi vive implique les ténèbres, implique ça. Il implique, il faut que j'obéisse à cette attraction de Dieu qui est plus grand que moi et qui fait que je sais qu'il est plus que moi, il est plus que ce que j'en saisis. Donc je laisse tomber les lumières que j'ai déjà, mais à l'intérieur de ces lumières, vous voyez, je ne laisse pas tomber, je rentre dans ces lumières pour les dépasser et pour ne plus m'en occuper. Et à ce moment-là, je fais un acte de foi vive. Par rapport au mystère, vous comprenez donc que la sagesse chrétienne consiste, au niveau de la cause efficiente, donc de ma fécondité à moi, si je veux devenir et rentrer dans le royaume des cieux, il associe les deux points de vue de la structure. Lorsque ma foi n'est plus animée par l'Esprit Saint, que j'ai pris l'habitude d'une sagesse chrétienne, je vais, là, elle va se dégrader. Et je vais dire, oh ben la vie et l'être, c'est la même chose. Vie égale être. Et c'est ce qu'on appelle l'ontologisme. Voilà donc un peu un résumé. Et cet ontologisme est parfaitement faux, parce qu'il vient d'une dégradation. Tandis qu'ici, on n'a pas de dégradation, là, il n'y a pas de dégradation, au contraire, c'est une perfection infinie, si une perfection infinie, une perfection super infinie, comme dit Saint Grégoire, pardon, ou hyper cosmique, il dit, je crois. Hyper cosmique et super infinie, et une dégradation d'un seul coup. Donc c'est une dégradation dans l'ordre de la perfection, donc c'est toute dégradation dans l'ordre de la perfection, ça veut dire que c'est un mensonge. C'est de l'ontologisme. L'ontologisme, c'est quand je confonds l'être et la vie. Ce que je vis et ce que je dois être, c'est la même chose. À ce moment-là, je m'arrête. Sur le plan contemplation, je m'arrête. La vie contemplative en Occident, si on regarde bien, elle s'est arrêtée avec Descartes. Il ne faut pas exagérer, mais enfin, presque. Alors, au niveau philosophique, c'est sûr. Au niveau chrétien, non, parce que l'Esprit Saint a suscité des saints. Alors donc il faut revenir à quelque chose de très très clair, comprendre que l'ontologisme a engendré l'athéisme et que si les gens sont athées, c'est à cause d'un christianisme qui a été très mal vécu. Parce que les gens étaient chrétiens, mais ils n'étaient pas contemplatifs. Ils ne vivaient pas de leur christianisme de manière contemplative. Ils ne faisaient pas oraison. Donc comme on comprend ça aujourd'hui, on comprend premièrement que ceux qui sont dans l'athéisme, c'est à cause des chrétiens qui ne vivent pas de la vie contemplative. Et donc, ceux qui sont athées autour de nous, eh bien quelque part, si on ne fait pas oraison, je veux dire, on n'a pas trop intérêt à les juger. Parce que devant le trône de Dieu, c'est nous qui serons jugés. C'est pas de leur faute. Du coup, il faut reprendre ça. Il faut reprendre sur le point de la foi. Alors maintenant, application pour le point de vue de la Vierge, pour la Sainte Vierge. On essaie, nous, maintenant, de comprendre le mystère de Marie. Vous comprenez bien que le mystère de Marie, c'est l'homme, l'humanité parfaite, la seule créature humaine parfaite, par excellence. Elle est la créature de sagesse, c'est la sagesse parfaite de Dieu. Vous savez que la fête de l'Immaculée Conception, on donnait comme parole à la messe, à la liturgie, pour méditer le mystère de l'Immaculée Conception, on donnait le livre des Proverbes, c'est chapitre 8. Vous savez, la sagesse préside à toute la création du monde. Avant que toutes choses aient été créées, j'étais là. Et donc la sagesse est attribuée à ce qui enveloppe toute la création. L'Immaculée Conception, c'est la sagesse créatrice qui est là, manifestée dans l'Immaculée Conception. Elle est donc parfaite en elle-même. Formellement, l'Immaculée Conception, elle est parfaite comme ça, et à la plénitude de grâce. Elle est parfaite dans son origine, elle est parfaite dans sa prédestination, elle est parfaite dans sa fidélité et son acte. Je vais vous dire, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, elle pourrait dire, la Vierge, et elle est lucide. Elle est très lucide. On ne peut pas dire que la Vierge ne savait pas. Hein. Oh, moi, je... qu'elle ne savait pas. Elle ne s'en occupait pas. Mais elle le savait. Elle était contemplative, donc elle le savait. Parce que quiconque est métaphysicien, or, la métaphysique occupe, c'est l'immaculé. L'intelligence de l'immaculé, c'est une contemplation extraordinaire. Donc elle est lucide, mais elle ne s'en occupe pas. Pour elle, c'est rien. Pour elle, c'est rien du tout. D'être l'Immaculée Conception, la plénitude de grâce, la femme de l'Apocalypse, etc. Bon, encore que l'Apocalypse n'est pas encore écrite, mais... Si, ben... Pour elle, c'est rien. Elle vit de quoi? Elle vit de ce qui la dépasse, de ce qui dépasse cette perfection extraordinaire qu'elle est. Elle vit quelque chose de très extraordinaire. Elle est quand même extraordinaire, il faut bien l'avouer. Tu es d'accord? Si tu étais l'Immaculée Conception, tu dirais... Pas mal, hein? Oh! Et tu mettrais une glace, tu dirais, oh, joli! Et puis, évidemment, je ne peux pas améliorer, pas la peine de mettre. Pas la peine de mettre. Oh. Et puis, tu en vivrais, tu vivrais. Et puis, après tout, pur don de Dieu, donc tu ne. Hein? Hein? Ah, tu dis, au fond, ma sagesse s'arrête à moi, la sagesse s'arrête à moi, je suis la sagesse. Et c'est vrai qu'elle était la sagesse en plus. Mais, étant la sagesse, si elle s'était arrêtée à elle-même, eh ben, elle ne serait plus vraiment la sagesse. Elle ne serait plus en fonction de sa finalité. Parce que ce qui fait qu'un être est un être de sagesse, c'est qu'il est finalisé par un autre que lui-même. Et il trouve sa perfection. Il trouve sa perfection, sa bonté. Il trouve sa perfection et sa bonté, non pas dans l'infini de la richesse qu'il est, il est d'une richesse infinie, plénitude de grâce, c'est ça. Il trouve sa perfection, son achèvement, dans le dépassement de ce qu'il fit. Il faut qu'il aille plus loin. Et pour qu'il aille plus loin, il faut qu'il considère et qu'il voit en toute vérité que ce qu'il vit, si grand que ce soit, ce n'est rien. Et que Dieu est tout. Donc vous voyez la différence entre la substance et la relation. C'est à cause de la relation qu'on vit de l'amour. L'amour est plus fort que la lumière. Par la lumière, nous sommes fils de l'infini. Et l'amour est plus fort que la lumière. Et sur cette terre, vous voyez, au point de vue philosophique, l'intelligence, c'est plus fort que l'amour. Ça, tous les philosophes vous diront que la grande dignité du philosophe, c'est pas l'éthique, c'est la métaphysique. Parce que la plus grande dignité de l'homme, c'est d'être contemplatif. L'affectivité, c'est pour tout le monde. Mais dès qu'il s'agit de la sagesse chrétienne, c'est l'amour qui est premier. Parce que la charité dépasse tous les dons. La foi, à ce moment-là, est importante, mais il faut que la foi s'associe à l'espérance. Donc la plus grande humilité, les ténèbres. Les vertus, la chasteté, la pureté, l'humilité, la douceur, l'obéissance. Ça, c'est toutes les vertus qui creusent, comme on le disait tout à l'heure à l'office, qui creusent la vertu d'espérance. Il faut que la foi devienne héroïque, accepte les ténèbres, et accepte de dépasser pour rentrer dans l'attraction de l'amour. Alors, la charité, elle, dans le monde surnaturel, nous fait aller beaucoup plus loin, du point de vue de la perfection, que la perfection qui nous est donnée par la foi. La foi sans la charité, c'est comme dit saint Paul, aes sonens. C'est beaucoup mieux en latin. C'est comme de la brocaille de fête foraine, vous savez, les cymbales. Cymbales retentissantes quelquefois en choisie. Aes foraine, aes sonens. C'est comme ce bruit de fête foraine là. C'est ça, la foi sans la vie, sans la charité. C'est fou, la foi sans la charité. La foi sans la vérité, ça sert à rien. Donc, du côté de la vie chrétienne, l'amour dépasse le point de vue de l'intelligence. La charité est première. Et quand on rentre dans la vie même de l'Esprit-Saint, unité du Père et du Fils, c'est à nouveau l'intelligence qui est plus grande. C'est la vision béatifique qui est la chose la plus étonnante dans la très sainte Trinité. Et quand Jésus est monté au ciel, il a retrouvé la primauté de la vie contemplative. Parce que la vie contemplative de Dieu permet à Dieu d'être deux personnes. Et ces deux personnes, du coup, peuvent s'aimer. Mais quand il engendre une deuxième personne par sa vie contemplative, il l'engendre, c'est un fils. Tandis que quand les deux se rejoignent, il n'y a plus qu'unité. Et la procession du Saint-Esprit n'est pas un engendrement, n'est pas une génération. Donc elle n'a pas la même dignité que l'intelligence. Du côté de l'amour, c'est une émanation, c'est tout. Ce n'est pas une génération. C'est pour ça que les conciles disent, ceux qui affirment que l'Esprit-Saint est engendré par le Père et le Fils n'ont perdu totalement la foi catholique et la foi apostolique. Dieu a engendré un fils, et c'est en contemplant qu'il engendre ce fils. C'est le Verbe de Dieu, c'est saint Jean qui le dit. Le Verbe de Dieu. C'est la contemplation divine arrive jusqu'à engendrer une personne d'une manière purement contemplative. Et au ciel, c'est ça qui permet qu'il y ait une unité spontanée, un amour qui en émane, qui en procède. Mais la deuxième procession, procession de l'amour, n'est pas un engendrement. C'est une spiration. Et c'est bien quand nous irons au ciel, notre charité n'augmentera plus. Notre charité n'augmentera plus. Mais c'est la vision béatifique, la vision, c'est l'intelligence, notre contemplation, c'est la vision béatifique qui va prendre le relais de notre croissance dans l'intimité avec Dieu. Actuellement, plus on vit de la charité surnaturelle, plus on vit de l'intimité avec l'éternité et à la réalité divine. Et au ciel, dès qu'on rentrera au ciel, on sera fixé dans le degré de charité qu'on a à la fin de notre vie. Notre degré de charité n'augmentera plus. On ne pourra plus mériter davantage un amour plus grand. Par contre, le Verbe de Dieu, le Père et l'Esprit-Saint vont mettre dans notre intelligence, vont faire éclater notre intelligence comme un espèce de feu d'artifice, une espèce d'ouverture à l'infini. Et cette ouverture à l'infini, c'est un feu. Et on appelle ça la Lumen Gloriae, la lumière de gloire. Et cette lumière de gloire, c'est la contemplation qu'il y a à l'intérieur de Dieu qui fait qu'un verbe de Dieu est dans la contemplation du Père. Et notre intelligence sera aspirée à ce moment-là, on transforme en fusée ou en tout ce que vous voulez, et on va connaître Dieu tout le temps, de manière encore plus grande. Or, plus vous connaissez quelqu'un, plus vous l'aimez. Mais le moteur, ce sera l'intelligence. Votre charité à vous n'augmentera plus. Pourtant, votre amour augmentera, mais votre charité n'augmentera plus. Votre amour augmentera parce que la vision béatifique vous fait pénétrer continuellement et éternellement dans une contemplation de plus en plus profonde avec l'unité du Père dans son Verbe. C'est tout à fait étonnant. Application donc au mystère de Marie. Il faut absolument donc qu'on sorte de la fameuse erreur qui est ici. Et qu'on dit, ouais, oh ben ce qu'on vit de Marie, c'est génial. Et ce qu'on vit avec du mystère de Marie, c'est formidable. Et on va essayer de garder ça. On s'accroche à Marie de cette manière-là. Si on s'accroche à Marie de cette manière, on s'accroche. Ils veulent m'enlever ça. Ouais, ouais, les salauds, ils n'aiment pas Marie. Si vous repérez cette attitude-là, Artung cacahuète. C'est devenu psychologique. C'est une dégradation totale. Vous êtes en dessous même encore de la philosophie. Ça pisse pas loin. Avec Marie, il ne faut pas faire ça. On ne peut pas se permettre de faire ça avec elle, quoi. Hein? C'est un peu... Il ne faut pas que ce soit psychologique. Il ne faut pas retomber dans l'imaginaire, il ne faut pas retomber dans la dévotion, il ne faut pas retomber dans l'affectivité. Vous voyez, une affectivité, la dignité de l'intelligence nous oblige à regarder Marie dans tel que la doctrine de l'Église nous l'indique, pour voir ce qu'il y a d'infini en elle, certes. Mais dans les jours dans lesquels nous nous trouvons ici, à cause du mystère de l'Ascension, puisque Jésus... Lui s'est séparé de cette plénitude de bonheur, de grâce, d'amour, de foi, d'espérance, de charité, de vivification par les dons du Saint-Esprit qu'elle vivait sur la terre pour aller au ciel. À partir de ce moment-là, l'Immaculée a vécu de quoi? Elle a vécu de cette profusion de sainteté qui vivait en elle dans son union avec Jésus. Mais Jésus est parti, justement. Elle n'a vécu que de ce qui dépassait ce qu'elle vivait. Elle a été, j'allais dire, transplantée totalement dans la très sainte Trinité. Le Christ s'est assis à la droite du Père. Donc, elle n'est relative à rien d'elle-même et à rien de son unité humaine avec Jésus. Et même son unité de grâce avec Jésus. La grâce, c'est créé. C'est créé, la grâce. C'est quelque chose qui est créé. C'est pour notre terre, la grâce. Elle est liée à quoi ? Au Fils qui s'est assis à la droite du Père, et donc à l'unité du Père et du Fils. C'est là qu'elle est entièrement relative à ça. Elle ne regarde pas ce qui concerne sa richesse profonde. Elle regarde ce qui dépasse cette richesse profonde. Est-ce que vous comprenez le sens du mystère de l'Ascension pour Marie ? C'est que du coup, grâce à l'Ascension, elle est obligée de ne vivre que de la finalité. Et la finalité, c'est la très sainte Trinité. C'est ce qui se passe entre le Fils et le Père. Lorsque le Christ est assis à la droite du Père, alors elle contemple Jésus assis à la droite du Père. C'est tout de même assez inouï, ça, comprenez? J'espère que vous saisissez que le mystère de l'Ascension nous oblige à regarder Marie sous cet aspect-là. Donc, de comprendre que si je veux l'atteindre par une foi vive, c'est-à-dire remplie d'amour pour elle, si je veux atteindre son cœur immaculé, parce que le cœur, c'est l'amour incarné, c'est l'amour divin dans une chair humaine incarnée. Si je veux atteindre son amour immaculé, et c'est ça qui nous intéresse, nous, c'est pas de croire en Marie, etc. Non, c'est de vivre dans son cœur immaculé, c'est-à-dire de l'aimer spirituellement, surnaturellement, éternellement. avec la puissance de l'amour, et pas de la charité, avec la puissance de l'amour, c'est-à-dire avec la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce qui se passe, elle est relative au Fils qui s'est assis à la droite du Père, elle est toute relative uniquement à ça, et du coup, elle est engloutie dans ce qui en émane, c'est l'Esprit Saint. Il n'y aurait jamais eu la Pentecôte sur la terre si elle n'avait pas vécu ça. Jamais. Parce que si Jésus est monté, c'est pour que Marie puisse vivre de cette pauvreté, de cette obscurité, du point de vue de la grâce, hein, du point de vue de la foi, du point de vue de l'humain, obscurité totale. Donc si vous vous appuyez pour la foi uniquement sur ce que vous comprenez, hein, ah moi j'ai plein de lumière et c'est ça qui est important. C'est pas important du tout. Pas du tout. Pas du tout important. Déjà au pied de la croix, la Vierge était au pied de la croix. Déjà, c'était l'obscurité, hein, faut voir. Hein. C'est fou, quoi. Je me rappelle quand même quand j'étais. Il n'y a pas quelques années, j'ai fait un enterrement de quelqu'un que je connaissais bien. Une petite fille extraordinaire, elle avait 5 ans. 5 ans, c'était à Sorès, dans le Tarn. Cette petite fille avait 5 ans. Elle était mignonne, elle était belle, elle était limpide. Elle était extraordinaire, cette petite fille. Elle avait une sœur aînée et une maman, bien sûr, papa et tout ça. Bon, sa mère l'aimait beaucoup. Elle aimait beaucoup sa mère, bien sûr. Et puis, un jour, elle jouait sur la route, il y a quelques centaines de mètres de chez moi. Une voiture est arrivée, l'a écrasée contre un mur. Cette petite fille était alarmée à l'hôpital. Et j'ai accompagné la mère lorsqu'on a ouvert le corps à l'hôpital. Ça, c'est bouleversant. C'est bouleversant. J'aurais jamais imaginé, je vous affirme, j'aurais jamais imaginé qu'un être humain puisse aimer un autre être humain autant. Jamais. J'aurais pas pu imaginer ça, je vous assure. Pourtant, je ne crois pas que je ne sache pas ce que c'est que l'amour. Hein. Je crois que je sais ce que c'est que l'amour. J'en sais pas complètement, pas autant qu'elle. Mais alors, devant ce corps qui était mort de sa fille, je vous affirme, la mère était méconnaissable. 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 On ne la voyait plus. Elle ne comprenait plus rien. Plus rien n'existait pour elle. C'était, je vous affirme, ça m'a. Et pas seulement moi, mais. Bon. Vous voyez, 6-7 ans après, là. Elle s'en remet encore. Et encore. Et encore. Mais son visage s'était entièrement transformé. Elle a pris d'un seul coup 50 ans. De plus. Elle était morte. Et en même temps, le gosse était là, elle était là, elle pleurait, elle criait, mais c'était très très clair que les deux se collaient ensemble. Pourtant, elle ne se collait pas, parce qu'elle gardait sa dignité. Mais Marie, au pied de la croix, elle ne comprend plus rien. Elle est dans l'obscurité. Mais encore Jésus est là. Il y a encore son corps, vous comprenez, cette maman, il y avait encore la petite fille qui est là. Son corps était là. Il y avait encore une consolation. Il y avait encore quelque chose, vous comprenez. Il y a encore quelque chose. Jésus, il y a encore son corps sur la croix. Quand Marie est au pied de la croix, il n'y a plus rien, c'est évident, il n'y a plus rien, tout est fini. Je veux dire, c'est terrible, c'est affreux. C'est... Bon, nous, on n'est pas sensibles, hein. On a la sensibilité d'un hippopotame. Mais l'Immaculée, c'est une sensibilité infinie, quasi infinie. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'obscurité dans laquelle elle est. Mais quand Jésus n'est plus là, quand on descend de la croix, on la met dans ses bras, et alors là, il y a cette défiguration de la femme. Et son cœur est transpercé par le Verbe, par le glaive. Et que les gens viennent. Et c'est ça, pour ça que je vous raconte l'histoire de cette femme à Sorès. Quand les gens viennent, et prennent le corps du petit enfant en disant, il n'est plus à toi, il est à nous, des inconnus. Des inconnus. Ils prennent le corps et c'est eux qui le mettent au tombeau. C'est eux qui doivent le... Et on arrache le corps de Jésus à Marie. Il faut sentir ça. On a arraché. Mais c'est inexplicable, vous comprenez bien. Vous comprenez que c'est pas difficile à expliquer ça. Elle était dans l'obscurité, mais il y avait quand même son corps, Jésus. Et la blessure du cœur de Jésus était dans le cœur de Marie, vous comprenez? Physiquement, elle était blessée à mort, mais l'ouverture du cœur de Jésus qui était là, dans ses bras, s'est plantée physiquement aussi, n'est-ce pas, dans son cœur à elle. Et la blessure du cœur de Jésus est mortelle, donc le cœur de Marie, quelque part, est mort, hein, humainement parlant. Mais elle continue à vivre d'autres choses, parce qu'elle vit d'autres choses, elle vit de l'Esprit Saint. Alors il y a ce miracle qui fait qu'elle ne meurt pas, alors que physiquement, elle est morte. Son cœur ne peut plus se battre. C'est le cœur de Jésus qui bat dans sa poitrine, le cœur de Jésus est mort. Et il y a encore ce cœur, vous comprenez, qui est dans ses bras. Tandis que là, on lui arrache le corps de Jésus, on le met au tombeau. Et elle est obligée, vous vous rendez compte? Elle est obligée d'être là, dans le lieu de l'Eucharistie, dans le cénacle, hein, et d'attendre. Et c'est d'autres qui se mettent au tombeau. Elle ne voit plus, autrement dit, déjà, c'est une nuit dans la nuit, quand la nuit est totale, 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 vous avez encore, à force de vous habituer au niveau oculaire, des formes quand même, vous. Hein? Tandis que ça, quand c'est dans le roc, dans la grotte, le tombeau, il n'y a plus aucune forme. La nuit est totale, l'opacité est absolue, il n'y a plus aucun repère. C'est la différence qu'il y a entre la détresse et l'obscurité de Marie à la croix, et la détresse et l'obscurité de Marie au moment du tombeau et du sépulcre. C'est bien pire. Il n'y reste plus rien. Il ne reste plus rien que la parole que Jésus a prononcée. Jésus avait dit, je ressusciterai le troisième jour. Elle n'y comprend plus rien. Elle ne sait pas comment ça va se passer. Elle n'en sait rien. Mais elle sait qu'il y a ça et elle croit. Est-ce que c'est pas à cause de ça que Jésus, quand il est apparu à Marie-Madeleine, lui a dit, ne t'agrippe pas à moi. Quand Marie-Madeleine a voulu s'agripper au corps de Jésus, et Jésus lui a dit, ne t'agrippe pas à moi, ne me tiens pas. Je ne suis pas encore remonté vers le Père. Est-ce que c'est pas à cause de ça, à cause de ce fait que Jésus de la croix était descendu dans les bras de Marie et qu'il a fallu arracher le corps de Marie? Je me rappelle cette mère avec cet enfant. Je vous assure, c'était indécollable. Je me disais, c'est un vrai miracle qu'on ait réussi à décrocher cet enfant de sa mère. Elle était morte, cadavre. Un vrai miracle pour Marie. Alors là, ça relève d'un miracle au cube, à l'infini. Pourquoi? Parce qu'à tel point, il s'était tellement connu la Pietà au pied de la croix. C'était tellement connu que la blessure du cœur de Jésus, la blessure du cœur de Marie, sont une seule blessure physiquement. Vous vous rendez compte? Prophétisé par Siméon au moment de la présentation de Jésus au temple, évangile de Saint-Luc. Et pourtant, et donc, c'est vrai, elle s'est agrippée, elle a collé son cœur. Et quand le corps de Jésus, on l'a arraché, c'est Jésus qui lui a dit dans le Verbe de Dieu, ne t'agrippe pas mon corps, il faut que ce corps remonte vers le Père. Donc il faut qu'il y ait cette dernière séparation. Sinon, je ne ressusciterai pas. Et mon corps ne remontera pas vers le Père. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que Jésus a dit ça à Marie-Madeleine, pour nous faire comprendre ce qui s'est passé dans le passage de la mort, la croix, au sépulcre? Ça fait comprendre ce qui s'est passé pour Marie, ce qui lui a été demandé. Il lui a été demandé une coopération qui dépasse infiniment toutes les coopérations les plus héroïques de l'humanité dans la foi, l'espérance et la charité. Dans laquelle on n'aurait jamais pu passer de la vie théologale à la vie des sept dons du Saint-Esprit. Je pense que ça, c'est assez clair. Alors vous comprenez bien qu'à ce moment-là, on comprend que la plénitude de grâce de Marie n'était plus rien pour elle. C'est facile à comprendre dans des conditions pareilles. Pour elle, à ce moment-là, sa plénitude de grâce, sa plénitude de sainteté, d'intimité avec Jésus, n'était plus rien pour elle. Il n'y a plus qu'une seule chose, c'est la foi qui adhérait dans la totale obscurité au mystère. De la révélation de Dieu, du Verbe qui se révèle à nous. comme victorieux de tout. Et pourtant, la détresse et l'échec est total. Et pourtant, elle doit croire à la résurrection. Et elle attend. Et donc, elle vit d'autres choses. De ce qu'elle vit dans une sainteté totale, elle vit d'autres choses. Et ce qui permet quelque part, dans la complémentarité avec la descente de Jésus aux enfers, c'est ce qui permet qu'il y ait ces retrouvailles de la résurrection qui se passent dans le tombeau. Parce que Dieu n'a rien voulu faire, comme disent les rabbins, comme dit Moïse, Jésus n'a rien voulu faire sans l'amour de l'homme et de la femme. Il aurait pu faire ça tout seul, Jésus se ressuscité lui-même tout seul. Et Dieu est tout puissant, Dieu est tout puissant. Mais il ne voit rien faire sans passer par l'amour de l'homme et de la femme, l'humanité intégrale. Donc il fallait qu'il y ait cette complémentarité. Et ce mystère montre que si Jésus, dans son corps cadavérique, il n'est pas relatif à son âme est morte, il est mort. Il, donc son âme est séparée de son corps. Donc son corps n'est pas relatif à son âme humaine. Son corps est relatif à quoi? Il est relatif à la personne. Il est relatif, le corps est entièrement imbibé, tout présent, au Verbe de Dieu. C'est le Verbe de Dieu qui est relatif au corps de Jésus. Et ce qui est demandé ici à Marie, c'est d'être entièrement relatif au Verbe de Dieu aussi, à travers ce corps, à travers sa détresse, à travers son obscurité. Le Verbe de Dieu sans qu'il n'y ait rien de Jésus, et à travers ce corps de Jésus, qui n'est même plus là, en plus. Et cette relativité, le fait d'être relatif à ce qui dépasse totalement le corps cadavérique de Jésus, et puis les ténèbres totales de l'Immaculé, c'est parce qu'ils sont tous les deux relatifs à un unique Verbe que du coup la résurrection peut passer par l'unité de l'homme et de la femme. Dieu aurait pu faire autrement, je suis tout à fait d'accord. Il aurait pu par exemple dire, je m'incarne, je fais un clin d'œil à tout le monde, et je repars, tout le monde est sauvé. Il aurait pu faire ça. Il aurait pu. Il n'a pas fait comme ça. Pourquoi? Parce qu'il fallait que l'amour entre l'homme et la femme soit absolument, non seulement total, substantiel, mais en plus, qu'il soit absolument finalisé par l'amour du Fils dans l'Esprit Saint. Donc, si vous, ça fait comprendre ce mystère-là, déjà. Rien que dans le mystère de l'ascension aussi, il y a quelque chose d'analogue que nous tâcherons de voir. Comment Marie a vécu ce mystère de la résurrection, comment Marie a vécu le passage de la résurrection à l'ascension, comment Marie a vécu après l'ascension pour qu'il y ait la Pentecôte. Et qu'est-ce qui s'est passé pour faire le passage nouveau à la dormition? Et un autre passage encore, ça fait pas mal de passages ça, à l'assomption, et ce passage d'éternel à la royauté. Tous les passages, Pâques, le passage, Pâques, la résurrection, les sept apparitions de Jésus ressuscité correspondent à ces sept passages de l'Immaculée Conception, dans un dépassement tout le temps d'elle-même, incessant. Bon, l'Église en repère sept, mais croyez bien, il y en a plus que ça. L'Église en repère sept, voyez, passage de la mort au sépulcre, le passage du sépulcre à la résurrection, le passage de la résurrection à l'ascension, le passage de l'ascension à la Pentecôte, le passage de la Pentecôte à la dormition, de la dormition à l'assomption, et le passage donc à cette royauté éternelle, cette fécondité à créer. Et on est content, on a du pain sur la planche, hein. Je ne sais pas si on va y arriver. Mais il faut absolument au moins qu'on voit les premiers passages. Et pour voir ces premiers passages, c'est ça le mystère de Marie. Et si on veut plonger nos deux mains dans le sein des saints du mystère de l'Immaculée, jusqu'à la Reine Immaculée de l'univers, bon, il faut qu'on vive dans cette perspective-là. Donc dans une foi toute pure. C'était donc le rappel de ce que nous avons vu ce matin. Continuons avec crainte et tremblement. Oui, c'est mieux par papier, mais d'accord. Vas-y.
Juste un, au ciel, la charité n'a été fixée, mais le date de notre entrée au ciel, mais que l'amour continue, mais l'amour dans son extension,
Oui, c'est une très bonne question, en effet, oui. Là, donc vous avez compris peut-être la question ou pas? Je répète la question. Nous vivons dans notre vie. Regardez ce que Jésus a dit à Marthe Robin, que j'aime bien parce que Marthe, je me rappelle toujours sa voix extraordinaire. Marthe Robin, qui vivait complètement dans le sépulcre, hein, le mystère du sépulcre, elle. Hein. L'obscurité totale, une plaie vivante, et si elle vivait, c'était miraculeux. Donc, mystère du sépulcre, Marthe Robin. Et pourtant, la voix, une voix extraordinaire. Petit enfant, 5 ans. Comme ma petite copine qui est morte, écrasée par le voisin, contre un mur. Extraordinaire cette voix. Bon, Jésus lui dit, pour préparer mon retour glorieux, il faut que se constituent sur la terre des foyers de lumière, de charité et d'amour. Des foyers de lumière, de charité et d'amour. Donc des foyers où les chrétiens vont vivre de la vie contemplative et seront entièrement relatifs à ce qui se passe lorsqu'on voit le Père, comme le Verbe de Dieu voit le Père, lumière, pour avoir une vie contemplative. De charité, parce que du coup, autant qu'il est possible dans cette vie, nous sommes imbibés d'un amour qu'il y a entre le Père et le Fils et qui est totalement divin, qui n'a rien à voir avec l'affectivité terrestre. Rien. La charité vient d'en haut. C'est l'amour divin qui nous est communiqué. Donc c'est pas être sympa avec les gens. Généreux. C'est très bien. Il faut être généreux. J'ai pas dit qu'il fallait pas être généreux. J'ai pas dit qu'il fallait pas être sympa. J'ai pas dit qu'il fallait faire la gueule. Hein. Non, moi je fais la gueule puisque je vis de la charité. Hein. C'est français. Non. J'ai pas dit ça. J'ai dit que la charité vient d'en haut. Autant qu'il est possible. Mais lorsque la charité, c'est nous qui vivons cette charité autant qu'il est en notre pouvoir. Donc c'est au niveau de ce qu'on vit de cet amour de l'Esprit Saint. Mais il faut qu'à travers cette charité, grâce à une foi vive, on soit entièrement relatif à ce qui dépasse totalement cette charité, à savoir l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit. La lumière nous met entièrement relatif au Verbe de Dieu qui est engendré par le Père. On est dépendant du Père. On va vers le Père. La charité, elle fait que du coup, on est dans un amour divin, surnaturel qui vient d'en haut de manière plénièrement incarnée. C'est pour ça que j'ai besoin ici du cœur immaculé de Marie, parce que c'est la seule qui l'incarne. La seule. Mais à travers elle, je vais faire comme elle. Elle ne s'arrête pas à cette plénitude de charité. Elle ne s'arrête pas à son cœur immaculé. Elle ne vit que d'un amour qui n'est pas le sien. Et c'est l'Esprit Saint. Et vivre de l'Esprit Saint, c'est pas tout à fait la même chose que vivre de la charité. Est-ce que ça va? C'était ça la question? Bon, la charité, si tu veux, c'est quand même le cœur humain qui est entièrement imbibé, surnaturalisé, d'un amour qui vient d'en haut. Et du coup, tu aimes surnaturellement la manière dont Jésus ressuscité les aime, tous ceux qui sont proches de toi. Et tu aimes également le Père à travers ton cœur humain, mais avec un cœur qui est surnaturalisé par le cœur brûlant de Jésus qui aime le Père. Mais ça reste quand même ton cœur humain, si tu veux. Mais si ton cœur humain est vivifié par la charité, forcément, c'est toujours l'autre. Tu vas toujours plus loin. Et plus loin que ta manière d'aimer avec le Christ ressuscité, le Père et ton prochain, il y a la manière dont le Père et le Fils s'aiment de manière éternelle dans l'Esprit Saint. Donc, il faut toujours que tu ailles, que tu supplies, que tu comprennes que cet amour n'est pas suffisant et que tu supplies l'Esprit Saint de venir compléter dans sa bonté a créé, dans sa simplicité, dans sa perfection, et du coup dans une manière d'exister qui est infinie du point de vue de l'être amoureux de Dieu, de sa personne même. C'est un amour qui a une manière d'exister qui est parfaite. Tandis que ma charité a une manière d'exister qui est imparfaite, la preuve elle peut augmenter. C'est pas une tension, c'est une attraction. Je suis relatif à ça, donc je m'arrête. La charité, si elle ne se lie pas au Saint-Esprit, eh ben, elle s'arrête d'augmenter. Alors la charité ne doit jamais s'arrêter d'augmenter. Mais tu ne trouveras jamais à l'intérieur de la charité le moyen pour elle-même d'augmenter. La structure de la charité n'augmente qu'en fonction de la finalité. Et la finalité, c'est l'Esprit Saint, l'union du Père et du Fils. Donc vivre de l'amour et vivre de la charité, c'est pas tout à fait la même chose. Ça va? Un dépassement.
Ce dépassement vers ne nous conduira jamais vraiment là. On ne vivra pas l'amour tel que le vit l'Esprit Saint, quoi. Je veux dire, fondamentalement, c'est possible.
Fondamentalement, non.
Mais il y aura cette espèce de... cet élan vers, mais...
Mais il y a quand même une communion.
Ça pourra le réaliser pleinement.
Mais l'amour implique l'unité, donc il y a quand même une unité avec lui qui se fait. Et ça, c'est l'amour. Mais quand c'est toi qui aimes avec un amour qui vient du ciel, qui vient d'en haut, à travers le cœur de Jésus, à ce moment-là, c'est de la charité. La charité fraternelle, c'est pas la même chose que de vivre de l'Esprit Saint. Alors, le premier frère, c'est Jésus, ressuscité. Ma premier frère, c'est l'Immaculé. Ma première sœur, enfin, si vous voulez. Oh, c'est un peu mal, si j'ai plus que 20 minutes pour faire le... Alors, bon, on va avancer, hein. Donc ça, c'est donc le rappel de ce matin. Donc maintenant, tenez, petit clair. Voilà. Donc, continuons. Donc, vous comprenez bien que ce qui va structurer ce que nous voulons regarder, nous, c'est moins ce qu'elle a vécu, ce que je vous disais tout à l'heure en disant, elle a vécu la croix comme ça, elle a vécu le sépulcre de cette manière-là, c'est moins ce qu'elle a vécu, premier aspect, dans la profondeur de sa vie, que ce qu'elle est dans son mystère qui nous intéresse. Donc, ce qu'elle est dans son mystère, mais les deux nous intéressent, hein, mais nous ici, on veut porter l'effort là, parce que c'est ce qui est le plus difficile. Pour ce qui voir ce qu'elle a vécu, ben, voilà, vous lisez les petites révélations, à condition de le vivre de manière contemplative, hein, attention, c'est pas pour vous réchauffer, c'est pas pour vous réchauffer l'affectivité, hein. C'est pas pour faire du bien, c'est pour contempler. Mais alors, on va regarder tout ce qui, par rapport à Marie, correspond à la relation. Elle est relative à quelqu'un qui la dépasse. Elle se dépasse totalement en elle-même. Et la première relation, c'est quoi? C'est la relation donc par rapport au Verbe de Dieu. Elle est la mère de Dieu. Ah, c'est là qu'on va rentrer dans la doctrine verticale de l'Église. C'est une relation. Si tu es ma mère, il y a une relation entre toi qui est ma mère et moi qui suis ton fils, ton petit enfant, ton petit bébé. À chaque fois que tu pries pour moi, je suis ton petit bébé, tu m'engendres, tu es ma mère. C'est une relation. Elle est mère de Dieu. Dans toute relation, il y a trois choses. Il y a sujet, c'est toi qui es en relation avec quelqu'un. Il y a un terme qui est en relation avec quelque chose, avec une autre réalité. Cette réalité qui te dépasse. Hein. Toujours une relation, je parle bien sûr d'une relation métaphysique, d'une relation qui correspond à un mystère. C'est celle-là qui m'intéresse, une relation subsistante. Et il y a un fondement. Marie est en lien avec le Fils, elle est la mère du Fils de Dieu, c'est son Fils. Et qu'est-ce qui fonde cette relation? C'est pas la corde. C'est pas avec une petite cordelette qu'elle est liée, elle, la femme, avec le Fils de Dieu. Ça peut être. Le fondement, ça pourrait être une corde. Jésus est en relation avec la croix, avec des clous. Je peux être lié à Vincent, par exemple, parce qu'on nous bizute, je sais pas où, on fait un grand coup de colle. On met de la colle, de la glue dans mon dos, de la glue dans son dos, et tac, on nous colle ensemble. Bon, on est en relation l'un avec l'autre, et le fondement, c'est la colle. Ouais. Dès qu'il y a une relation, il y a forcément un fondement. Quel est le fondement? Quel est le fondement? Quand on dit que Marie est mère de Dieu, c'est une relation. Et c'est ça qu'il faut regarder, vous voyez, il faut regarder de manière très, très... On dépouille là tout ce qui est affectif, hein. Et on regarde vertical, pour voir qu'est-ce que la foi... apostolique, la révélation toute pure nous dit. Bon, le sujet de la relation, mère de Dieu, c'est Marie. Le terme, le terme, on va voir tout à l'heure. Le fondement, c'est son acte de foi. Elle a engendré parce qu'elle a cru. Il fallait qu'elle se donc dépasse totalement dans sa plénitude de lumière, de vie, de charité, d'amour, qu'elle se dépasse complètement et qu'elle atteigne en pleine obscurité celui qui la dépasse complètement, le Verbe, et qu'elle dise oui, par la foi. Et c'est cette foi contemplative qui lui a permis d'atteindre le Verbe de Dieu. Dans une relation réelle, hein, c'est bien réel l'incarnation. C'est une relation réelle, très très importante, c'est pas du tout symbolique, c'est pas affectif, c'est pas uniquement... Non, c'est une relation réelle, c'est avec son corps, avec son âme, avec son esprit, avec sa plénitude de grâce, que son acte de foi atteint le Verbe. Le Verbe, alors, ça, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste, c'est pour ça que je vais rectifier. C'est pas tout à fait le Verbe. Bon, pourquoi? Parce que si vous êtes en relation avec quelqu'un, vous avez quelque chose de plus. Le jour où je rentre en relation profonde avec toi, j'ai quelque chose de plus. Mais quand Dieu rentre en relation personnelle, comme c'est le cas pour la mère de Dieu, par son acte de foi, qu'il atteint réellement, avec Marie, il aurait donc quelque chose de plus. Mais en Dieu, il ne peut pas y avoir quelque chose de plus. Il est impossible d'ajouter quelque chose à Dieu. Donc, hors Dieu, le Verbe, c'est Dieu. Donc, ce n'est pas tout à fait vis-à-vis du Verbe qui est Dieu à lui tout entier qu'il y a cette relation. C'est vis-à-vis, alors là, notez bien, et il faut que vous vous en rappeliez, c'est vis-à-vis du respectus du Verbe vis-à-vis de son incarnation. Le Verbe de Dieu regarde vers son humanité qu'il va assumer grâce à l'acte de foi de Marie. C'est éternellement que le Verbe de Dieu sait qu'il assume un corps humain dans le Christ. C'est éternellement qu'il le sait. C'est éternel, ça. C'est même déjà avant la création du monde, si je puis dire. Eh bien, ce regard, cette considération, ce fait que le Verbe de Dieu soit entièrement tourné, si je puis dire, vers l'humanité qu'il assume, c'est éternel. C'est engendré en Marie. C'est Marie qui l'engendre par son acte de foi. Engendre, donc, elle est mère. Ça va? Ça va? Vous me suivez? Est-ce que quelqu'un ne comprend pas? Oui. Marie n'engendre pas le Verbe, puisque le Verbe est engendré sans elle de toute éternité. Qu'est-ce que Marie engendre? Elle est mère de Dieu. Qu'est-ce qu'elle engendre pour être mère de Dieu? Elle engendre ce fait que Dieu, le Verbe, se regarde l'humanité, l'humanité de Jésus, qu'il va assumer. Donc c'est ce regard de contemplation éternelle de Dieu le Verbe vis-à-vis de son humanité qu'il va assumer. Et ce regard, on appelle ça le respectus. Ce respectus, ce regard, c'est un regard éternel. Tu ne vas pas me dire que Dieu ne savait pas qu'il y a l'incarnation. Tu ne vas pas me dire que Dieu ne savait pas qu'il y a la création... existerait à partir de lui, ou existe à partir de lui, parce que pour Dieu c'est éternel. Donc Marie engendre dans le Verbe un regard éternel vis-à-vis de l'humanité qu'il va assumer. Ça va? C'est ça que Marie a engendré. Marie, par son acte de foi, a permis au Verbe, son acte de foi qui est temporel, a permis au Verbe de regarder éternellement l'humanité du Christ qu'il assume. Oui ?
Il y avait quand même une certaine liberté dans ce respect du Verbe. Est-ce qu'il y avait une possibilité d'erreur, par exemple ?
Non, le Verbe n'a aucune possibilité d'erreur dans le Verbe. Puisque le Verbe, le Père, envoie sa parole par la médiation de l'ange Gabriel, il envoie donc son Verbe, qui parle par la médiation d'un ange Gabriel, pour dire à Marie... Je vous salue, Marie. Kaya et Maria, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et tu engendreras, Dieu t'a choisi pour engendrer un fils. On l'appellera fils du Très-Haut.
C'est là que Marie aurait pu refuser. Et à ce moment-là, tout aurait été différent. C'est ça que c'est là que vous dites.
Mais bien sûr que Marie aurait pu refuser. La preuve qu'elle pouvait refuser, c'est qu'elle dit « Ouais, mais comment je vais faire puisque je ne connais pas d'homme. J'ai promis la virginité, je suis fiancée et mariée, mais j'ai promis la virginité perpétuelle, la chasteté absolue. Alors comment est-ce qu'il faut faire ?» Si elle avait été dans une extase obligée de dire oui, elle n'aurait pas posé la question. Et le fait qu'elle délibère pour montrer comment est-ce qu'il faut faire, et qu'elle tient encore à cet engagement, qu'elle tient d'ailleurs d'une inspiration probable du Saint-Esprit, montre que puisqu'elle délibère, elle est libre. Quelqu'un qui n'est pas libre ne délibère plus. Il est obligé. Donc elle est totalement libre. Et elle dit oui. Ça d'accord, la liberté, il n'y a aucun problème. Parce que dès que tu es dans le point de vue spirituel de l'amour, la liberté est totale. Ça va? Il y a des gens qui ne sont pas capables de se dépasser, qui ne sont pas libres, ils sont esclaves. Et bien, s'ils ne se dépassent pas, ils sont esclaves du conditionnement dans lequel ils sont, c'est tout. Et ils tombent dans l'ipsolipsisme, ce qu'on appelle l'ontologisme. C'est sûr. Donc, vous comprenez bien que la relation qu'il y a entre Marie et le Verbe de Dieu, et le respectus, le Verbe qui, dans son regard vis-à-vis de son incarnation, eh bien, elle est très, très spéciale, très particulière. Elle est très particulière parce que le sujet de la relation, c'est un sujet créé. Marie, elle est créée. Vous êtes d'accord? Marie, c'est une créature. C'est pas Dieu. Et le terme est incréé. Dieu n'a jamais été créé. Le respectueux du Verbe vis-à-vis de son incarnation, c'est éternel. C'est incréé. Et pourtant, c'est une créature créée qui a engendré quelque chose qui est incréé. C'est fou. Non mais, si vous réfléchissez un tout petit peu, regardez à quel point c'est aberrant du point de vue de l'intelligence, du point de vue de la logique. Et pourtant, on le dit à chaque « Je vous salue Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. » Bon, est-ce que vous êtes d'accord? Saint Thomas d'Aquin dit qu'à propos de l'acte créateur de Dieu, quand Dieu crée un être humain, quand Dieu, être premier, créateur, incréé, Dieu c'est l'incréé, celui qui n'est jamais créé, c'est à cause de ça qu'il est infiniment simple, qu'il est simple, absolument parlant, je vous l'ai dit ce matin. Il est incréé. Si vous dites simplicité dans l'ordre de l'être et non créé, c'est pareil, c'est la même chose. Et il n'y a que celui qui sait qu'il est créé par l'incréé qui peut le comprendre. Et si tu ne passes pas par cette relation du créé à l'incréé, tu ne peux pas comprendre qu'il est parfait, bon et infini. Et c'est donc qu'ils arrivent vers Dieu en disant tout de suite il est infini, sans adorer, c'est-à-dire sans avoir de relation de créature au créateur, de créé à un créé, ils se trompent complètement. Et ils sont dans l'illusion. Et tout ce qu'ils disent sur Dieu est faux. C'est ce que je vous disais ce matin. Et c'est ça la grave erreur de Duns Scott. Reprise par Descartes, et qui a provoqué l'athéisme contemporain. La réaction violente contre cette pensée catholique aliénante. Et c'est vrai, elle est aliénante, cette pensée catholique, de 4 siècles de durée. Et inacceptable parce qu'elle est fausse. La révélation est vraie. C'est qu'il faut adorer son créateur. Et entre la créature et le créateur, il y a une relation. La preuve qu'il y a une relation, c'est que j'existe. Si tu existes, ça prouve, et en fonction d'un créateur, ça prouve qu'il y a une relation. Et c'est bien réel. Tu vois que tu existes, tu peux faire un jugement d'existence. C'est réel, ça. La relation, rappelez-vous toujours ça, elle est réelle. La relation d'adoration, quand je reconnais que je suis un être créé par l'être incréé, l'être premier, ma relation avec Dieu est réelle. Là, je suis dans la réalité. C'est ce que dit saint Thomas d'Aquin. Effectivement, à chaque fois que je suis en lien et en dépendance avec mon Créateur, qui est incréé et éternel, j'ai infiniment plus que ce que je suis. Si je m'arrête à mon être à moi, c'est magnifique, c'est étonnant. Ça c'est vrai, on peut faire beaucoup de photos, etc. On pourra faire un film sur moi même. Le père du Bounce. Formidable, un film extraordinaire. Alors là, un spectacle. Michael Jackson à côté, nul. Formidable. Oui, mais on s'en fiche de ça. Mais quand je suis en relation avec mon créateur, je suis dépassé par mon origine. Et je suis en relation avec lui, je suis en relation avec l'incréé, j'ai beaucoup plus que ce que je suis. C'est évident. La relation réelle rajoute quelque chose à ce que vous êtes. Ça va? Mais du côté de Dieu, du côté du Créateur, quand je suis en relation avec lui, le fait que je sois en relation avec lui, est-ce que ça fait qu'il a une relation avec moi qui est relation réelle? Non. Il n'y a pas de relation réelle. On appelle ça une relation, dans le sens ici, de Dieu vis-à-vis de moi. C'est une relation de raison. Rappelez-vous toujours ça, c'est important parce que ça a l'air idiot. Non, c'est pas idiot du tout. Ça a l'air très intelligent, j'espère.
Mais en tout cas, c'est quelque chose de fondamental. Le traité de la création de saint Thomas d'Aquin, et puis même toute la théologie, est basée là-dessus.
Oui. Par Marie, il n'y a plus une relation de raison. Il y a une relation...
Justement, c'est ce qu'on regarde. Si je vous... Justement, c'est pour ça. On va regarder justement les cinq grands types de relations qui sont cachées dans le fait qu'elle est mère de Dieu.
Vous allez
la... Oui, c'est ça qu'on va regarder. C'est pour ça que quand je vous dis on fait quelque chose de vertical, on va regarder ça. C'est une relation subsistante et par conséquent, puisqu'elle est subsistante, elle implique la perfection, donc il y a cinq aspects, toujours. Hein. Tu le sais bien. Tu sais bien qu'il y a toujours cinq aspects, il y a cinq modalités à la perfection métaphysique. Donc c'est pour ça que je vois ici qu'entre un sujet créé et un sujet incréé, c'est une relation de réel. Mais entre un sujet incréé, Dieu, et un sujet créé, moi, c'est une relation de raison. Pourquoi ? Parce que quand Dieu est en relation avec moi, je ne rajoute rien à Dieu. Le fait que j'existe, c'est seulement une participation à son existence. Le fait qu'il existe et qu'il me donne d'exister, c'est par participation que j'existe par rapport à lui. Il sait qu'il est l'être qui existe tout, absolument, parfaitement, et il me fait participer à l'existence, et du coup j'existe. Mais en me faisant participer, il ne rajoute pas un être nouveau. C'est une participation, c'est tout. Donc du côté de Dieu, ce n'est pas une relation réelle, elle ne rajoute rien à Dieu, c'est donc une relation de raison. Donc, de Marie au Verbe de Dieu, c'est une relation réelle. Du Verbe de Dieu à Marie, c'est une relation de raison. Donc, il y a au moins deux grandes relations qu'il faudra bien regarder. Relation de raison. Il faudra justement regarder un petit peu de quoi il s'agit. Oui, parce que donc rien n'est changé en Dieu, vous le comprenez. Puisque c'est une relation de raison qu'il y a entre Marie et le Verbe de Dieu. Entre le Verbe de Dieu et Marie, pardon. Il faut donc qu'on distingue et qu'on précise. Voilà. Et le Verbe de Dieu. C'est une relation de raison. À Kibéo, où il y a eu tous ces millions de morts là, ces milliers de morts et tout. On va jouer là. Où c'est ces milliers de morts, Marie est apparue à Kibéo en disant « Je suis la mère du Verbe ». C'est extraordinaire. C'est ça qu'il faut... Alors quand elle dit ça, c'est magnifique, mais essayons de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand elle dit à Lourdes, je suis l'Immaculée Conception, ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que l'Église dit quoi? Elle explique. Ah, tu dis, en gros, tu m'en as l'air du Verbe, c'est pareil. C'est pas pareil. Si tu dis que Marie est mère de Jésus, c'est encore autre chose. Jésus, c'est à la fois Dieu et homme. C'est encore autre chose. Vous comprenez? Donc il faut qu'on regarde à l'intérieur du Verbe, qu'on précise ce qu'il y a au niveau du terme dans la relation. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que entre Marie et le Verbe, il faut distinguer dans le Verbe deux aspects. Le Verbe, c'est le terme, et donc il faut regarder le terme ultime. C'est le Verbe. Marie est en relation avec le Verbe pour que le Verbe puisse regarder son humanité. Et il y a un terme terminant, un terme qui est vraiment terme, un terme au carré, si vous préférez, terme terminant, terme de la relation de Marie, Mère de Dieu. C'est le vrai terme de la relation réelle, c'est le fait que le Verbe de Dieu, ça c'est le Verbe en lui-même, c'est ultime. Et ici, le terme terminant, c'est le Verbe dans son respectus. C'est le respectus du Verbe. Rappelez-vous ces expressions, parce qu'elles appartiennent à la foi. Hein. Tout ça, c'est défini hein, par la foi. C'est défini, hein. C'est-à-dire, on est obligé d'y croire. Enfin, on est obligé d'y croire. Oui, l'obéissance de la foi, vous n'êtes pas obligé humainement, mais on, si vous voulez être chrétien jusqu'au bout, vous êtes obligé d'y croire. Vous êtes obligé d'obéir à ça. Le respectus du Verbe, c'est le terme terminant. Et entre le Verbe de Dieu, qui est engendré par le Père, et le regard qu'il a vis-à-vis de son humanité, il y a une relation objective. Parce que la contemplation incréée de Dieu, le Verbe, vis-à-vis de son humanité, vis-à-vis de son respectus, c'est une relation réelle, c'est une relation objective. C'est pas seulement symbolique. C'est une relation contemplative, hein, évidemment. C'est une relation très très objective, très 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 objective, divinement parlant, incréée, mais objective. Donc, une fois qu'on a distingué dans le Verbe un sujet incréé, un terme ultime et un terme terminant, le Verbe d'une part et le respectus d'autre part, on comprend tout de suite ce que je vous ai expliqué au début, que la maternité divine de Marie, par de Marie, est fondée dans son acte de foi et se termine au respectus du Verbe. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure.
Par la médiation du Christ. Par la médiation du Verbe.
Non. Non, non. Directement.
Marie touche le Verbe, le Verbe.
Marie touche rien du tout. Marie. Non, Marie, par son acte de foi, atteint le mystère de l'incarnation. Elle croit au mystère de l'incarnation, et en croyant, en faisant son acte de foi, le mystère de l'incarnation est en Dieu éternellement. Et si le mystère de l'incarnation est en Dieu éternellement, c'est parce que Dieu regarde son humanité qu'il veut assumer dans le Christ, éternellement. Mais si c'est comme ça dans la très sainte Trinité éternellement, c'est parce qu'elle a fait un acte de foi. C'est inouï. C'est complètement inouï. Et pourtant, vous pouvez tirer les choses dans tous les sens et vous verrez que c'est impossible autrement. Si c'est pas comme ça, ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu. Hein. Donc pas d'incarnation. Donc, toute la révélation, vous pouvez la mettre à la poubelle. Et puis, tout ce que vous vivez dans le baptême, pareil, puisque le baptême, c'est... Hein. c'est inouï, ça. Alors, on va aller un tout petit peu plus loin encore, que peut-être que j'ai plus le temps. Mais on va reprendre ça, essayer de réfléchir bien là-dessus. Et de voir que Marie est mère de Dieu. Donc, quand elle se dépasse par l'acte de foi, pour atteindre par une foi toute pure qu'elle ne peut pas comprendre... Ce fait que le Verbe de Dieu éternellement à partir d'elle, rien du tout. Regarde éternellement, éternellement. Donc avant même qu'elle ait existé. L'humanité qu'il assume dans la subsistance et l'hypostase, dans l'union hypostatique. Elle avait beau avoir conscience, si vous voulez, dans sa vie contemplative, qu'elle était la plus belle de toutes les femmes, la plus pure, la plus immaculée, c'était rien, ça, à côté de cet acte de foi. Il fallait qu'elle plonge dans une ténèbre. Et il a fallu qu'elle rentre dans une pauvreté. Mais moi, je suis pauvre par rapport à ça. Je n'ai rien du tout, dans une obscurité. Il a fallu qu'elle se dépasse complètement. C'est pour ça qu'elle-même, quand c'est fait et que c'est reconnu, dans une relation de charité, Élisabeth et elle, fraternelle. Dans cette relation de charité, c'est reconnu par Élisabeth. Et du coup, elle dit le Magnificat. Et quand elle dit le Magnificat, elle dit qu'elle est heureuse. Parce qu'elle a été, parce que Dieu a regardé la pauvreté, l'humilité, l'esclavage de sa servante. Et que Dieu élève les humbles. La béatitude des pauvres, des humbles, des tout-petits, des appauvris, des dépouillés, des esclaves. Et Élisabeth, elle dit, bienheureuse, parce que tu as cru. La béatitude de la foi est co-adjacente à la béatitude de la pauvreté, de l'humilité. La foi, c'est ce conjoint dans sa toute pureté à cette pauvreté, cette obscurité totale, encore un moyen, grâce à Marie, on le comprend. Alors, à ce moment-là, elle atteint son terme, qui est le Fils de Dieu. qui est le Verbe de Dieu, qui est le fait que Dieu parle et que sa parole est révélée et que le Verbe de Dieu est révélé au monde de manière sensible. C'est ça le Messie. C'est ça l'incarnation. Donc la première chose que la maternité divine de Marie nous fait comprendre, c'est qu'il faut rentrer dans la béatitude de la foi, c'est-à-dire dans la béatitude de la plus grande pauvreté et du plus grand dépouillement, du plus grand dépassement de nous-mêmes. Ça va ? La plus grande humilité. La première, c'est une des premières choses qu'il faut comprendre. Mais on va regarder donc la prochaine fois. Bon, on va souffler un petit peu, hein, vous inquiétez pas, on ne sera pas toujours sur ce rythme-là. Hein, mais on va de temps en temps s'alimenter, parce qu'il faudra quand même qu'on regarde ce qui se passe à la résurrection, hein, à la Pentecôte, etc. Dans son vécu. Et puis, on continuera après à regarder la relation de Marie, mère de Dieu, dans ce dépassement total de ce qu'elle a vécu dans les 15 mystères. Et donc le mystère tout pur de cette relation, de ce qu'il y a de plus incréé dans le mystère de Marie. Il y a bien quelque chose d'incréé dans le mystère de Marie. Puisqu'elle engendre quelque chose d'incréé. Si dingue. Elle, qui est créature, engendre quelque chose qui n'a jamais été créé. C'est fou. Et il faut contempler ça. Parce que si l'Église nous dit Marie, Mère de Dieu, ça veut dire qu'il faut que nous aussi, on participe à ce qu'elle a fait. Et qu'avec elle, on engendre dans la Très Sainte Trinité quelque chose qui est incréé. C'est pour ça que Jésus dit, mais qui c'est ma mère ? Et il regarde tout le monde et dit, mais voilà ma mère, mon frère, ma soeur, mon père, ceux qui m'engendrent, ma mère est là. Et c'est pour ça que c'est si important de regarder la chose de manière donc verticale, vous comprenez ? Donc on va regarder les différents types de relations, les cinq grands types de relations demain, et en espérant d'ailleurs avec la grâce de Dieu que nous pourrons avoir cette grâce de rester dans le silence, parce que vous voyez bien que c'est dans l'obscurité d'une consécration totale à Dieu, où elle s'arrête absolument jamais à elle-même, dans un silence habité, qu'elle peut vivre de ça. Donc vous comprenez bien que pour le mystère de l'Ascension, il faut qu'on puisse vivre de ça, avec Jésus, qu'on sorte de ce monde, et qu'on rentre dans le monde de l'incréé, avec lui, comme Marie a fait quand elle a fait son acte de foi. Et tous les actes de foi qu'elle a fait, ça a été ça. Et à chaque fois, elle a engendré quelque chose. Et encore aujourd'hui, elle continue d'engendrer quelque chose, à condition que nous nous associons vitalement et totalement à elle dans l'amour. À ce moment-là, elle peut continuer, c'est ça Marie-Reine. Marie n'est pas reine sans nous. Il faut toujours comprendre ça. Parce qu'un roi sans ses sujets, Marie n'est pas reine sans nous. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'il faudrait qu'on regarde, qu'on voit ce déploiement de ce qui nous dépasse totalement et qui fait que quelque part on n'est pas seulement à l'image, à la ressemblance de Dieu, mais on rentre, on est totalement digne de recevoir la lumière de gloire, c'est-à-dire de pénétrer dans ce qui est unique pour Dieu seul en tant que Dieu. Le fait de voir Dieu en pleine connaissance, à la manière dont il se voit lui-même, et avec la même intensité d'amour que lui. Nous avons la même intensité d'amour que lui, mais pas la même intensité de charité que Christ. C'est inouï. Et donc, vous voyez bien qu'il y a le mystère de Marie, et là, pour nous faire comprendre ça, la condition qu'on le vive, donc dans son mystère, et par la foi, et que tout le temps on essaye de rejoindre ça et de refaire ça avec elle et de réengendrer dans l'incréé ce qu'elle a engendré dans l'incréé. Quand Dieu à regarder toute la création, et enveloppant la création son humanité glorieuse, et qui se l'est assumé. C'est lui qui a fait ça. Et en faisant ça, il l'a fait parce que nous avons la foi. Ce qui montre la dignité de la foi,